20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, le pianiste Alexandre Kantorov est notre invité ce soir. Avec lui, nous allons nous plonger dans le monde de Brahms, du jeune Brahms dont il nous restitue toute la fougue, l'audace, l'esprit de liberté dans un formidable album, l'un des plus beaux albums de piano de cette rentrée. Mais avant cela, comme chaque soir, jetons un coup d'œil sur les autres temps forts de cette actualité musicale. Suite à son triomphe au concours La Maestra, dont nous avons pu vivre la finale sur Radio Classique, la jeune chef d'orchestre indonésienne Rebecca Tong a été invitée à se produire à la tête de l'Orchestre de Paris à l'occasion d'un concert exceptionnel qui vient d'être ajouté à la programmation de la Philharmonie de Paris. Ce sera, notez-le bien, le lundi 2 novembre. Rebecca Tong dirigera le 20e concerto pour piano de Mozart et la 4e symphonie de Mahler, avec en soliste la pianiste Marie-Ange Gucci et la soprano Sabine de Vielle. À noter que la programmation de concerts de l'Orchestre de Paris s'était déjà enrichie de deux rendez-vous programmés les 18 et 19 octobre avec Tugan Sokiev. Ce dernier n'ayant pas pu assurer ses concerts prévus au mois de septembre, il retrouvera donc les musiciens de l'Orchestre de Paris dans une dizaine de jours, dans un programme associant le concerto pour piano de Schumann avec Jean-Frédéric Neuburger en soliste et la suite du Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Le quatuor Girard donnera dimanche à 15h30 en la basilique Sainte-Clotilde à Paris le coup d'envoi d'une saison musicale, saison itinérante et solidaire qui jusqu'au printemps rayonnera dans une quinzaine de départements en milieu rural. Plus d'une quarantaine de concerts avec entre autres Léon Chanté, Élodie Soulard, Amanda Favier ou encore le Paris Mozart Orchestra dont la directrice musicale Claire Gibault est justement la marraine de cette saison ou plutôt hors saison musicale, puisque tel est le nom de cette série de concerts itinérantes. Vous trouverez la programmation, le calendrier des concerts sur le site horssaisonmusicale.fr. Le claveciniste Justin Taylor et ses complices de l'ensemble Le Consort viennent d'entamer une résidence à Royaumont, résidence qui donnera lieu à quelques concerts cet automne. Premier rendez-vous pour les jeunes, pour les scolaires, ce lundi autour des Fables de La Fontaine, illustrées en musique par des pages de Claire Rambaud. Et puis rendez-vous avec le public le samedi 31 octobre dans le réfectoire des moines de l'abbaye de Royaumont. C'est un programme de musique anglaise que nous offrirons ces musiciens en compagnie du contre-ténor Paul-Antoine Bénos, des mélodies et des pages instrumentales de Purcell, John Blow ou encore John Eccles. Mais ce soir, c'est dans une sonate de Dandrieux que l'on écoute Le Consort, un extrait du plus récent album de cet ensemble, merveilleux album sorti la saison passée. Thank you. Un extrait d'une sonate de Dandrieu par le consort, en résidence à Royaumont, où ses musiciens explorent notamment le répertoire anglais. Rendez-vous le 31 octobre pour ce concert intitulé « Au Solitude », concert que les musiciens du consort partageront avec le contre-ténor Paul-Antoine Bénos.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Le pianiste Alexandre Kantorov vient de se lancer dans un cycle consacré aux sonates pour piano de Brahms, l'un de ses compositeurs fétiches, dont il a choisi de mettre en avant l'esprit rhapsodique, l'esprit de liberté tel qu'il souffle dans ses trois sonates pour piano. Des œuvres de jeunesse qui s'accordent particulièrement bien au tempérament, à la fougue et au sens de la narration de ce brillant pianiste, Alexandre Kantorov, dont la carrière a explosé depuis sa victoire l'année dernière au concours Tchaïkovski. Alors, à l'occasion de la sortie sous le label BIS du premier volume de ce cycle, associant la deuxième sonate de Brahms à des rhapsodies de Liszt et de Bartok, Alexandre Kantorov nous éclaire justement ce soir sur ses affinités brahmsiennes.
Brahms, on a une image assez conservatrice, entre guillemets, de lui. Il est très tourné vers le passé. On pense à ses grandes œuvres matures où on a l'impression d'une sorte de maîtrise de chaque note, d'une grosse dignité, pas trop d'émotions débordantes. Et de voir ces trois sonates qui sont probablement les œuvres les plus ambitieuses qu'il ait jamais écrites pour piano, parce qu'ensuite c'est beaucoup plus intime, c'est des variations et ensuite c'est des petites pièces, histoire, exactement. Et de voir en fait à quel point il est ambitieux, à quel point il est fou et à quel point au contraire il prend des libertés et il brise des codes. Tout comme un jeune Liszt l'aurait le fait aussi, et que ce soit structurellement, on a vraiment l'impression d'une sorte de grande fantaisie où seulement le dernier mouvement a sa forme classique habituelle, et harmoniquement il y a des moments de folie. Soudain il y a un cluster de deux notes que on pensait pas entendre avant le 20e siècle, et il enfonce pendant à peu près 10 mesures. Et donc c'est vraiment des pages emportées d'un jeune génie qui en plus sous la direction de Schumann, et ça se ressent, et qui se laisse avoir par le démon de la composition et de l'envie de briller, j'ai l'impression, et ça me plaisait beaucoup. Ouais.
D'autant qu'il avait à peu près votre âge, il avait une vingtaine d'années, Brahms, lorsqu'il a composé ses sonates. Il a ce tempérament tempétueux, cette fougue, cette liberté, cette audace, autant d'éléments que vous portez en vous aussi, Alexandre Kantorov. Vous avez aussi ce côté tempétueux, ce côté audacieux, ce côté fougueux à prendre des risques.
Oui, je pense au moment de jouer, au moment du concert, j'arrive à avoir ces émotions qui arrivent, alors que dans la vie, pas du tout. Tous les jours, c'est vraiment l'opposé. Mais ouais, je sais pas. C'est des moments où peut-être les émotions, elles sont là, elles attendent d'être jetées sur scène, en fait, au moment où je peux tout lâcher, enfin, grâce à la musique, quoi.
Thank you. C'est avec la deuxième sonate de Brahms que vous entamez votre cycle consacré aux sonates des œuvres de jeunesse de Brahms, Alexandre Kantorov, un album qui vient de paraître chez Bis. Pourquoi avoir commencé par la deuxième sonate d'ailleurs ?
Alors j'avoue que moi, c'est techniquement la première qu'il ait écrite, mais c'était vraiment pas pour cette raison musicologique, c'était plus pour l'approche que j'avais de découvrir en même temps cette sonate et la Rhapsodie de Bartok, opus 1, qui est aussi une œuvre de jeunesse et qui, elle, pour le coup, c'est vraiment comme si une grosse improvisation de 20 minutes, en fait. C'est sur tout le folklore hongrois, on dirait une sorte de Rhapsodie de Liszt un peu survoltée, avec des passages impressionnistes. Et cet esprit-là, pour moi, était tellement proche de celui de cette sonate que je me suis mis tout de suite dans l'idée de les mettre ensemble. Et peut-être j'avais aussi un goût pour la sonate la moins jouée des trois aussi, celle qui fait un petit peu le mouton noir, parce que beaucoup de gens la considèrent un peu maladroite dans l'écriture, un peu bizarre, sur ce dernier mouvement immense qui dure trop longtemps. Il y a beaucoup de un peu critiques sur cette œuvre. Ils sont à la fois compréhensibles et en même temps, je sais pas, je trouve que comme la Rhapsodie de Bartok, on trouve tellement de choses spéciales à ce moment de jeunesse qu'on n'aura plus ensuite, qu'on aura, et ça reste assez, pour moi, important et vraiment unique pour décider quand même de le mettre en avant.
C'est vrai que c'est une sonate qui a un côté très épique, un côté très rhapsodique, et c'est justement cet élan rhapsodique que vous soulignez dans cet album, Alexandre Kantorov, en l'associant à des rhapsodies de Brahms, mais aussi de Liszt, puisqu'il y a un côté très listien dans cette sonate, et rhapsodie de Bartok. On sent que lorsque vous construisez un programme, c'est aussi important quelque part pour vous que l'interprétation associée cette sonate de Brahms à des rhapsodies, c'est mettre aussi en avant votre démarche interprétative, c'est annoncer cet esprit libre, ce côté improvisation, cette fougue que vous voulez mettre en avant. La construction d'un programme est essentielle.
Oui, absolument, et encore plus importante quand il s'agit d'un disque, pour moi, parce que quand on mobilise une machinerie aussi importante qu'une maison de disques, la production, la presse, pour quelque chose qui est un objet qui va être priorité durée tout au long, en fait, de vie, en fait, donc
parce qu'on le garde, hein, le disque,
c'est, hein, ça,
c'est pas comme un concert, c'est pas éphémère.
Exactement, et on joue souvent, en plus, les mêmes œuvres, on a des mêmes compositeurs, du coup, ce qui est les rend les choses intéressantes, c'est soit à la fois de faire découvrir des choses qu'on connaît moins, et en même temps aussi de placer des œuvres qu'on connaît bien, mais au sein de quelque chose de thématique ou quelque chose de, où on n'aurait pas vu un angle pareil, ou vraiment d'associer des idées entre des compositeurs. Moi, c'est ce que ma professeure fait très souvent. C'est comme si elle tisse une toile entre tous les compositeurs avec de la symbolique de thème. Elle est persuadée qu'ils savaient tous, en fait, une sorte de, pas code caché, mais une sorte de langue. Ils se rendaient très bien compte de ce qu'ils faisaient en se volant leurs idées, en les utilisant. Et donc, ouais, ça me passionne vraiment, en fait, de mettre en lumière certaines choses qu'on voit seulement à côté d'autres œuvres qui correspondent bien.
Et mettre en lumière ce côté rhapsodique, c'est mettre en avant la liberté, c'est mettre en avant un sentiment d'improvisation. C'est ce qu'on ressent quand on écoute votre enregistrement, Alexandre Kantorov, comme si vous étiez porté par un souffle, comme si vous improvisiez.
oui, un peu. Surtout la rhapsodie est la forme, moi, en vrai, la plus libre, dans le sens que elle permet de passer, je sens, de devoir faire un rappel de ce qu'on a déjà énoncé plus tard, d'avoir une vraie construction. On peut juste raconter, en fait, une histoire, et comme ça remonte, j'ai l'impression, un peu au mythe grec, au genre de Ulysse où il se balade île en île, et chaque île c'est un univers, et il n'y a pas besoin d'avoir une vraie transition entre eux. On peut juste découvrir ces différents mondes, et c'est ce qui me parle vraiment dans ces rhapsodies, du coup dans la sonate de Brahms, qui est un peu dans ce style, c'est cette idée de pouvoir vraiment avoir l'impression de réécrire au moment où on joue, avoir l'impression que alors je sais pas, c'est peut-être parce que je suis tellement mauvais en improvisation que du coup c'est ma manière à moi de quelque part improviser grâce à l'interprétation, mais il y a une spontanéité qui est permise et qui est vraiment libératrice. Thank you.
Alors, votre nouvel album, Alexandre Kantorov, est placé sous le signe de la rhapsodie. Il est centré autour de cette deuxième sonate de Brahms et associe des rhapsodies, notamment la 11e rhapsodie hongroise de Liszt. On est porté, en écoutant la musique de Liszt, en écoutant cet album, par ce souffle, ce sentiment de liberté, puis cette virtuosité, une virtuosité enivrante. On sait que vous êtes à l'aise avec la virtuosité. La virtuosité vous permet quelque part une espèce de lâcher prise, d'être libre, d'aller plus loin encore dans l'interprétation, dans la créativité. C'est une force aussi, la virtuosité, quand on la maîtrise.
Mais totalement, la virtuosité, c'est quand même une grande chose. C'est vraiment avoir une sorte de dépassement de soi, que ce soit sur le plan technique ou musical. Et ça passe souvent, bien sûr, par une prise de risque. Mais aussi, je trouve, la virtuosité, c'est savoir arriver à faire passer exactement ce qu'on veut, que ce soit en donnant l'impression, au contraire, d'une difficulté folle et d'aller au bout de soi, ou au contraire, de rendre la chose tellement facile et évidente. Tout ça doit coexister, en fait, au sein d'une sorte d'idéal qu'on se projette musical, en fait. C'est très très loin d'une simplement la vélocité qui est bougée rapidement ses doigts. Ouais.
Alors, votre enregistrement vient de paraître, si je le disais, le premier d'un cycle consacré aux trois sonates de Brahms. Vous allez continuer avec la troisième sonate, que vous donnez d'ailleurs en ce moment en récital. Vous l'avez associée aux ballades, opus 10, à la chaconne de Bach arrangée par Brahms. Quelle est la thématique, après la thématique de la rhapsodie, la thématique de ce second volume?
Il y avait une sorte de mélange entre une sorte de presque tombeau à Schumann, parce que je sais que les ballades ont été écrites au moment Schumann a été envoyé à l'asile. Je sais peut-être moi qui pars très loin, mais quand la première ballade, c'est la seule qui a un programme, et c'est très étonnant pour Brahms qui normalement ne fait jamais ça, et c'est basé sur ce poème écossais de chevalier qui a tué son père pour vouloir être avec sa mère, en fait. Et c'est dur d'imaginer autre chose quand on voit Brahms avec les deux Schumann au-dessus de lui. Donc, et puis même la dernière ballade pourrait tellement être écrite par Schumann lui-même. J'ai vraiment l'impression qu'il y a cet aspect là, et donc je trouvais que à la fois le rapport à Bach, que Schumann était c'était un des plus grands, il a aussi arrangé les œuvres violon pour violon seul avec piano, et en même temps une sorte de rapport entre, je sais pas, l'ombre et lumière, avec des moments de paradis, des moments d'enfer qui coexistent, et ça me paraissait, avec la chaconne qui a vraiment cette dimension un peu universelle de couvrir les deux spectres de manière extrême. Donc voilà, j'ai pas encore les mots pour l'expliquer, mais je trouvais que il y avait quelque chose derrière là.
Et c'est un programme qu'on pourra entendre, entre autres, à Paris. Vous jouerez la Philharmonie de Paris en récital, ce programme, le 25 janvier. D'ici là, d'autres concerts, une activité sur scène très dense pour vous, Alexandre Kantorov. Vous donnerez plusieurs tournées internationales avec de grandes phalanges internationales. Vous serez ces prochains jours en tournée avec le Concertgebouw d'Amsterdam. On pourra vous entendre également ensuite en tournée avec Ivan Fischer, l'orchestre du Festival de Budapest. C'est toujours aussi intense pour vous, aussi bien en France qu'à l'international?
C'est toujours, toujours intense, parce que particulièrement, en plus, le concerto, je trouve qu'il y a vraiment une dimension d'aller au bout de soi et de se donner sur le moment avec un orchestre, et puis de le rejouer chaque soir. C'est aussi ne pas essayer de reproduire un concert qui s'est bien passé, c'est aussi accepter son état d'esprit qui est différent du jour au lendemain, et c'est très dur de se faire confiance et de ne pas essayer d'avoir trop de contrôle sur soi, en fait.
Alors, certaines de ces tournées passeront par la France, notamment le 23 octobre à Toulouse, où vous jouerez le deuxième concerto de Liszt,
c'est ça.
Une date également avec Valérie Gergiev prévue à la Philharmonie de Paris, le 30 novembre. Est-ce qu'elle est toujours maintenue, puisque les grands orchestres internationaux en ce moment...
C'est la surprise.
Voilà, bon, on va croiser les doigts. Une résidence également avec l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, un magnifique orchestre que dirige Kazuki Yamada, mais vous jouerez avec d'autres chefs, notamment Jérémy Rohrer.
Oui,
vous jouerez la musique de Prokofiev. Prokofiev aussi, c'est un compositeur qui, j'imagine, vous invite à sortir de vous, ce qui suscite l'imagination, qui suscite la créativité, Alexandre Kantorov.
Et particulièrement ce deuxième concerto, qui est, lui, pour le coup, très à part des autres. Et justement, il est partout dans la partition. On a des notes et des mots évocateurs. On pense à une sorte de conte fantastique en enfer. C'est assez brillant, vraiment.
Voilà, et vous le jouerez le 16 mai à Monte-Carlo avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et Jérémy Rohrer. Et il se peut que les micros de Radio Classique soient présents pour capter ce moment sans doute magique. Comment vivez-vous aujourd'hui, Alexandre Kantorov, cette période donc, très intense pour vous, mais très particulière? Vous vous êtes arrêté pendant 2 mois, comme tout le monde. Vous avez fait une pause, vous avez rechargé les batteries. Vous avez l'impression d'être différent, d'être plus fort aujourd'hui, plus serein, inquiet en même temps?
J'avoue que j'ai énormément de chance. Le confinement m'a fait quand même du bien. C'était depuis le concours, j'avais peu de moments pour vraiment me rebondir sur mes pieds, on va dire. C'est tout tourné en permanence. Et donc ce moment-là m'a permis vraiment de me recentrer, de revoir un peu mieux l'équilibre de ma vie. Et donc au contraire, là, aujourd'hui, là, je suis... je me sens beaucoup, on va dire, mieux, beaucoup plus concentré sur ce que je fais. Et j'ai l'impression que je sais à peu près où je vais. Donc
et vous arrivez plus à prendre plaisir quelque part parce que vous étiez dans une espèce de tourbillon incessant. Est-ce que justement aujourd'hui vous pouvez peut-être savourer différemment davantage ce plaisir de la scène puisque c'est un plaisir et
bien plus et bien plus qu'avant parce que avant il y avait un mélange de à la fois bien sûr d'exaltation de jouer avec soudain des gens qu'on admirait mais en même temps il y avait aussi l'inquiétude de voilà maintenant on est attendu en permanence il y a rarement des concerts où il y a pas quelqu'un qui veut capter, ça fait vraiment une sorte d'impression de devoir prouver qui commence peu à peu là à se dissiper. Et du coup, là, je reprends le goût de sentir qu'on est bien sur son instrument, quoi. C'est quand même agréable.
Et bien, nous, on l'apprécie sur scène et au disque avec notamment cet enregistrement qui vient de paraître chez Bis autour de la 2e sonate de Brahms et ses rhapsodies. Merci beaucoup, Alexandre Kantorov, d'être passé nous voir.
Non, merci, Laure. Thank you.
le final du deuxième concerto pour piano de Liszt qu'Alexandre Kantorov a enregistré avec le Tapiola Sinfonietta et son père Jean-Jacques Kantorov. Un concerto qu'Alexandre Kantorov jouera avec Ivan Fischer et l'orchestre du Festival de Budapest le 23 octobre à la Hallograin de Toulouse. D'autres rendez-vous, d'autres concerts à noter. Alexandre Kantorov sera le 30 novembre à la Philharmonie de Paris avec Valéry Gergiev et l'Orchestre National des Jeunes de Russie. Il donnera ensuite plusieurs récitals en France, le 6 décembre à l'Opéra de Lyon, le 17 janvier à l'Auditorium Régnier III de Monte-Carlo, où il sera d'ailleurs en résidence cette saison, et puis le 25 janvier à la Philharmonie de Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Yann Lovray pour sa réalisation. Très belle soirée et très beau week-end à l'écoute de Radio Classique. Je vous laisse maintenant, comme tous les soirs.